بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. شفرا، on avait lu le 27e juz hier. Hier, on avait essayé de recouvrir le 24, 25 et 26. D'accord ? Il nous restait donc à compléter le 27, la lecture d'hier. Et on va voir donc les versets qu'on a vus là. Et Inch'Allah, le 28e. Et de cette façon, on est à jour. Pour rappel, demain, subhanallah, on lit Tabarak al-Ladhi, l'avant-dernier juz. Et ensuite, le juz Amma, comme on fait tous les ans, sera donc divisé en deux avec le Khatm al-Quran qui aura lieu la nuit du 29e. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Alors Ibrahim عليه السلام dit: quelle est donc votre mission, ô envoyés? Ils dirent: nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées, des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Ce verset décrit la visite des anges. Lorsque les anges sont venu voir Ibrahim alayhi salam sous l'apparence d'être humain, et là il lui avait annoncé qu'Allah va lui accorder un enfant alors que son épouse était déjà très âgée. Mais c'est pas ce qui est cité dans ce verset, ça c'est cité dans d'autres ayat. Et ce qui nous concerne, le 27e juz, c'est la question que Ibrahim alayhi salam a posée à ces personnes: mais quelle est votre mission? Ma faqala fama khatabukum ayyuhal mursalun, quelle est exactement votre mission? Et là, les anges ont répondu: Inna ursilna ila qawmin mujrim, nous avons été envoyés vers des gens criminels. Il s'agit de quels gens criminels? Du peuple de Lout alayhi salam. Et cela prouve, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, à une même époque, il peut y avoir plusieurs prophètes. À une même époque, il peut y avoir différents prophètes, mais la spécificité de ces époques, enfin plutôt on devait dire notre spécificité à nous, alors que pour les autres aqwam, les autres générations, ben un prophète égale une région, un prophète égale un peuple, un prophète ça peut être pour un village, et sa mission reste concentrée sur ses populations et il ne va pas prêcher ailleurs. Alors que notre prophète alayhi salat wa salam, il a été envoyé pour al-alamin, pour toute la umma. Et chaque individu, à partir du moment où il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, fait partie de sa umma. Et puis on distingue deux catégories de umma, la ummat da'wa et la ummatul istijaba. Ce qu'on appelle la ummat al-istijaba, c'est, alhamdulillah, nous, ceux qui ont eu la ayyuhal ladhina amanu, qui ont la foi. Et dans certains hadiths, il est écrit que la lumière d'Allah Azza wa Jal avait rejailli, et les personnes qui au début de la création avaient été touchées par la lumière d'Allah, ben ce sont ceux qui ont eu iman, ou qui à un moment donné de leur vie auront la foi, et ceux qui ont été privés de cette lumière ben sont réellement privés de cette lumière. Donc la mission du Prophète sallam, elle n'a pas de limite temporelle ni limite dans l'espace. Alors que Ibrahim alayhi salam, c'est une région, et son frère, et pourquoi on appelle son frère? Est-ce que c'est son frère de sang? Non. Le Prophète sallam dit que tous les anbiya, tous les prophètes sont son frère. Allah Rabbul Izzah les a fait frères. Ce n'est pas des frères de sang, parce qu'ils peuvent venir à des générations de différence, mais ils sont considérés comme frères. Et Ibrahim alayhi salam était très peiné, très attristé de constaté que les anges étaient venus. Et il savait pertinemment que si Allah avait envoyé ses anges, c'était parce qu'il y avait une décision terrible concernant le peuple de Lot alayhi salam. Et on saute quelques versets pour voir quand les anges, ils ont cherché, est-ce qu'il y avait des maisons, il y avait des musulmans, des croyants. Il dit que fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. Lot alayhi salam, sa da'wa n'a pas vraiment atteint son peuple. Les personnes qui faisaient partie de la umma du prophète Lot alayhi salam, leur cœur était rempli de perversité. Leur cœur était rempli de perversité. Et nous avons tous quel était le péché qui était propre au peuple de Lot alayhi salam. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que Lot alayhi salam a échoué en guillemets dans sa mission, aucunement. Ça ne veut pas dire que Lot alayhi salam n'avait pas les compétences ou les qualités nécessaires pour convaincre son peuple. Si Allah l'a choisi, Allah Azza wa Jal choisit les meilleurs parmi ses créatures pour assumer ce rôle de Nabi ou de Rasoul, ce rôle de prophète. Mais Allah a décidé que la guidée va toucher qu'une poignée de personnes et pas les autres. Comme on avait vu pour l'histoire de Nuh alayhi salam, hein, pendant 950 années, et presque personne, très peu de gens, surtout les pauvres, ont accepté son invitation. Et dans Riyad al-Salihin, juste avant le mois de Ramadan, on a vu le hadith de lequel il est stipulé que le jour de Qiyama, le prophète alayhi salatu wasallam explique aux sahaba qu'il va voir une quantité de personnes. Il va penser que c'est sa umma, va lui dire non, ça c'est pas ta communauté, c'est la communauté du prophète Moussa alayhi salam. Et ensuite il va voir, mashallah, une quantité de personnes, et là ce sera sa communauté. Mais le prophète m'explique également que le jour de Qiyama, il y aura des prophètes qui se présenteront devant Allah avec 10 personnes. Il y a des prophètes qui se présenteront devant Allah avec 2 personnes. Et certains prophètes se présenteront devant Allah seul. Personne n'aura accepté leur mission. Et là, il y a de grandes leçons de sagesse à retenir. Un, la guidée dans les mains d'Allah. Deuxièmement, la guidée ne dépend pas des compétences de la personne. Il n'y a pas plus grand da'i, plus grand muttaqi, plus grand alim que les anbiya alayhi musallatu wassalam, qui dépassaient les sahaba. Ça, la question ne se pose même pas. Mais Allah met la guidée dans le cœur des personnes qu'il aime. Et quand une personne a un cœur rempli de fierté et d'orgueil, ben ce cœur-là n'est pas sensible à la vérité, qu'Allah nous protège. Donc, il a demandé à ses anges, quelle est votre mission? Donc, ils ont répondu qu'on a été envoyé vers ce peuple d'outranciers, vers ces gens criminels. Et après, il y a d'autres versets, bien sûr. Et je ne sais pas si on a eu l'occasion de passer en revue ces versets. Quand ces anges se sont présentés au prophète Lot alayhi salam, ils se sont présentés sous l'apparence de jeunes hommes, une grande beauté. Et on connaît quel était le penchant et le péché du peuple de Lot alayhi salam. Ils étaient... Il y a le verset de lequel est précisé comment ils sont venus à toute vitesse voir Lot alayhi salam quand ils ont vu qu'il y avait ces jeunes hommes qui étaient venus le rencontrer. Et en commentaire, les Mufassirs disent, regardez le degré de perversité et comment est-ce que leur cœur était corrompu. C'était vraiment des personnes dans le cœur desquelles il n'y avait aucune présence de bien. Et donc ces anges explique à Ibrahim alayhi salam, l'inursila alayhim. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Pour Ibrahim alayhi salam, c'était une visite de courtoisie. Une visite où ils ont annoncé la bonne nouvelle, qu'Allah va t'accorder un enfant. Mais pour le peuple de Lot alayhi salam, c'est l'inursila alayhim hijarata min tin. Et ce qui est choquant, c'est que c'est Moussa ou Amatan, inda rabbika lil musrifin, des pierres marquées auprès de ton Seigneur. Ça veut dire quoi, des pieds à marquer auprès de ton Seigneur? Ibn Kathir, rahimahullah, explique dans son tafsir, on trouve le verset, aywa, muktatabatan indahu bi asma'ihim, ay, kullu hajarin alayhi ismu sahibi. Sur chaque pierre qui tombait du ciel, il y avait l'inscription du nom de la personne à qui la pierre était destinée. Ça, c'était le azab d'Allah. Et ça nous rappelle le châtiment. Qui me rappelle un autre peuple qui a été châtié par des pierres? Aïwa! Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi sahabil fil. Et ces oiseaux ababil, ils avaient dans leur serre des pierres. Et en commentaire, Ibn Kathir dit que quand ces pierres tombaient du ciel, ce n'était pas des rochers, hein? À Babil, c'était des petits oiseaux. C'est pas des vautours ou des, c'était des petits oiseaux. Il dit que la pierre touchait les personnes. La pierre passait par leur tête et sortait par le bas de leur col et les transperçait en deux. Qu'Allah nous protège. Et voilà donc le châtiment du peuple de Lot alayhi salam. Sur chaque pierre, c'était écrit le nom de la personne et la pierre touchait les personnes concernées. D'autres versets décrivent qu'en plus de cette pluie de pierres, leur village a été monté jusqu'aux cieux, retourné et jeté. C'était un des châtiments les plus terribles, certainement, qui s'est abattu sur un peuple. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Nous en fîmes, non, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Dans les azab, dans les châtiments qu'Allah envoie sur les peuples qui ont été relatés dans le Coran, il y a là un signe pour chaque personne de cette umma. Retenons l'erreur des peuples précédents, le peuple de Houd. C'était des personnes dotées d'une grande force. Le peuple de Shu'aib alayhi salam, c'était des grands commerçants. Le peuple de Moussa alayhi salam, ils étaient corrompus par la royauté du Pharaon. C'était des gens très puissants, une grande force militaire, avec des personnes très riches comme Qarun. Jusqu'à la fin des temps, certainement, il n'y aura personne qui aura autant de biens, autant de richesses que Qarun. Et là, le prophète, Lut alayhi salam, son peuple, ben, leur péché, c'était la perversité et tout ce qui tourne autour de la perversité. Ça doit être une leçon pour nous. Attention, ces péchés-là entraînent la colère d'Allah et le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Donc voilà le début, les deux premières lignes, comme promis, du 27e juz. Maintenant, le 28e juz qu'on a lu ce soir, alors ça nous ramène vers la surat Al-Mujadala. Dans Abdullah al-Shaytan al-Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. As-Sa'di rahimahullah explique: nazalat hadhihi al-ayat, ces versets ont été révélés à propos d'une femme qui était venue voir le prophète alayhi salat wa salam pour se plaindre d'un comportement particulier de son épouse qui lui avait dit certaines paroles. Et donc elle était venue voir le prophète alayhi salat wa salam pour se plaindre et Allah azza wa jalla révèle qu'Allah est omniscient. Allah connaît tout. Mais Allah Azza wa Jal est également Sami' et Basir, audient et clairvoyant. Cette conversation qui a eu lieu entre cette femme et le Prophète sallam, ben Allah Rabbul Izzah, fawqa sab'i samawat, a tout entendu, a vu et il connaissait exactement l'objet de la conversation et Allah révèle. Et ensuite, les masa'il fiqhiyya, les règles de jurisprudence concernant ce problème de couple vont être énoncées pendant plusieurs lignes de la surat Al-Mujadala. Ce qu'on doit retenir, ce qui nous intéresse si on se limite à deux lignes, c'est qu'il n'y a pas une conversation qui n'est pas entendue d'Allah. Il n'y a pas deux personnes qui se réunissent sans qu'Allah ne les voie, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu où ils se sont retirés ou cachés ou peu importe. Nous sommes tous sous le regard d'Allah et Allah Rabbul Izzah entend chacune de nos conversations et plus encore, Allah sait ce qu'il y a dans nos poitrines, ce qu'il y a dans nos cœurs. As-Sa'di rahimahullah a commenté de « Inna Allah sami' » qu'Allah est audient « li jami'il aswat fi jami'il awqat ala tafannunil hajat » si des centaines ou des milliers de personnes se mettaient à parler en même temps, différentes langues, en demandant chacun quelque chose de précis et de complexe, Allah Azza wa Jal entend chacune de ces personnes, il connaît exactement ce qu'ils veulent, quelles que soient les langues, qu'ils sont en train d'utiliser pour demander. Ça, c'est un exemple pour qu'on réalise que le sam', comment Allah est audient, ben, ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et dans le commentaire de Basir, Allah Azza wa Jal voit cette fourmi noire qui, dans une nuit sombre, marche sur une pierre qui est toute noire Et en plus de ça, As-Sa'di précise qu'Allah connaît exactement ce que cette fourmi a mangé, ce qu'elle est en train de digérer, ce qu'il y a dans ses membres. C'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal ahata kulla shay, englobe toute la création, les mondes que nous connaissons, mais également les mondes que nous ne connaissons pas, qui ne nous sont pas accessibles. Et voilà la grandeur de notre Seigneur Azza wa Jal Hada. Voilà donc une petite introduction pour le 28e juz. Il me semble qu'il y avait un verset que j'ai oublié hein, de le 27e juz. Je me souviens qu'en dernier, on avait trouvé ça pertinent. Voilà, on revient donc du coup légèrement au 27e juz. Un verset qu'on mémorise certainement, à condition de le trouver. Voilà, justement, je le retrouve après, Inch'Allah. C'était lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé « Ya ayyuha alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ». Alors, subhanallah, ajib, je l'avais bien identifié ce verset, j'avais mis un marque-page, mais qadar Allah, je ne le retrouve plus. Quel est l'objet de ce verset? C'est un rappel de courtoisie, une règle de courtoisie, d'éthique, on pourrait dire, concernant la façon de s'asseoir dans une assemblée. C'est-à-dire, dans le dîn, on peut avoir des explications sur des choses très précises, très complexes, qui concernent l'au-delà, qui dépassent l'entendement, mais il y a également des règles concernant des versets, concernant des choses basiques, la façon de se tenir. Dit que donc, quand vous êtes dans une assemblée, le sens du verset, et qu'une personne veut prendre place, ben avancez. Si on vous demande d'avancer, de faire de la place, faites de la place, Allah Azza wa Jal va vous honorer. Dit que quand nous voyons qu'il n'y a pas assez de place, qu'il y a des gens qui veulent entrer, il est important de se resserrer les rangs, quitte à ce qu'on perde un petit peu en centimètres carrés par rapport à notre confort. Si on a l'habitude de s'asseoir en tailleur ou en gymnaste, je ne sais pas comment, mais on essaie de revoir un petit peu, pour faire ikram, et ça c'est une action, ça paraît bête, hein? Enfin bête, ça paraît simple on va dire, ça peut être quelque chose de très simple, mais Allah Azza wa Jal prend soin de le mentionner dans le Coran, parce que c'est une action qui est importante. C'est-à-dire, d'une façon générale, avoir du souci pour le bien-être de son frère en islam, c'est une action qui est digne d'éloge et qui apporte des récompenses. Ça montre le caractère du mu'min. C'est-à-dire, c'est pas uniquement quand quelqu'un a besoin d'aide, il a des dettes, et ainsi de suite. Bien, si quelqu'un peut aider, il a des choses aussi extraordinaires, c'est pas mal. Mais ça commence par des gestes simples, comme « Afshu salam abaynakum », faites le salam entre vous, saluez ceux que vous connaissez, mais également ceux que vous ne connaissez pas. Fais pas salam par la tête, lui il connaît salam, lui il ne connaît pas, tu dégages, lui c'est bon, toi tu sors. Malheureusement, de nos jours, c'est souvent comme ça, on fait salam aux gens qu'on connaît, et les gens qu'on connaît pas, on a l'impression que le salam c'est comme bonjour. Est-ce que les gens se disent bonjour partout dans la rue? Aucunement. Il suffit une époque à la Réunion, tout le monde se disait bonjour. Et on disait qu'en France, c'est comme ça. Maintenant, Allah musta'an, à part quand vous allez dans des villages, hein, vous êtes à plein des CAF, hein, Rizal, vous êtes à Sillaos. Là, les gens disent encore bonjour. Mais sinon, moi, ça m'est arrivé quand même à 5h30 du matin. Vous êtes seul dans la rue, vous croisez quelqu'un. Il passe à côté de vous. Mais c'est un être humain, c'est pas un chat. C'est pas, d'accord, ben vous dites bonjour, personne ne comprend pas, il veut quoi? Il va me demander de l'argent, il a besoin, je veux rien, je dis bonjour, c'est une règle de courtoisie. Le salam, c'est pas le bonjour, le salam, c'est, ça vient du nom d'Allah, as-salam, la paix, c'est un doua, que la paix d'Allah soit sur toi. Donc ça fait partie des règles d'éthique du croyant, dans la façon de se comporter, dans les échanges, d'accord, de la construction de la vie en société, mais également, vous êtes assis là, quelqu'un a besoin de s'asseoir, et il ne faut pas se dire que ben, il avait qu'à arriver à l'heure, hein. Nous on est arrivé, premier rang, bien installé, on n'est pas au Parc des Princes, on n'est pas au Stade Vélodrome, où il y a les premiers loges, où il y a les chaises, les meilleures places, et puis les autres, ben, ils arrivent, ils n'ont pas payé, ils restent debout, là, ça c'est bête, min buyutillah, et ça ne concerne pas uniquement une mosquée, une masjid, n'importe quelle assemblée. Et les savants disent que ça, c'est min adabi talab al-ilm, les règles d'éthique concernant la façon d'apprendre le ilm, d'apprendre la connaissance religieuse, s'asseoir à côté, hein, ne pas se disperser, parce que plus on est pris, plus il y a la baraka, et faire en sorte que ben, tout le monde puisse s'asseoir et écouter. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, à l'époque, comment on faisait des bayans, comme nous on dit, des discours alors qu'il n'y avait pas de micro? Comment ça se passait? Alors, répétition quand on est imam, c'est bon. La personne dit Allah, Samia Allah, Muhammad Rabbana, Alakal Hamd, Allah Akbar. Mais est-ce que quelqu'un est capable de répéter tout ce que. Ah, ben, c'était pas évident. Hein. Là, on réalise encore plus l'importance d'être. Kadir, pas besoin d'approcher, il est bon, c'est fini là. Mais il veut mettre en pratique tout de suite, mashallah. Et on comprend l'importance de, mashallah, d'être proche dans les assemblées. Il est relaté de, le nom de ce savant ne me revient pas, subhanallah, un savant connu du monde musulman, quand il se déplaçait dans une ville, on remonte à plusieurs siècles, hein, bien sûr. Frère, peut-être le nom nous reviendra. Il dit, quand il se déplaçait, le Jawzi, je ne sais plus comment il s'appelait, quand il allait dans une ville, c'était les routes étaient fermées. Et les gens, ils venaient, subhanallah, venaient s'installer des heures et des heures avant pour avoir la possibilité d'écouter ce que le cheikh avait dit. Mais après, il y avait des coursis. Il y avait des chaises hautes, très longues, et chaque personne écoutait et il retransmettait le message. Mais bien sûr, quand cela vient du cheikh, celui qui donne le dars, c'est différent de celui qui l'écoute et qui le rapporte. Donc là, on voit l'importance de le fait de serrer les rangs dans une assemblée. Hada. وما توفيق إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.